Alors, nous commençons la première conférence de l'année. Il y en a déjà eu une en septembre de l'année dernière avec le père Jean-Baptiste Golfier. Et la nouveauté pour cette année, c'est que les éditions du Carmel et la librairie Silo et Carmel ont désormais un nouveau directeur, monsieur Camiade, qui vient d'arriver début janvier, qui a commencé le 2 janvier, et qu'on est heureux d'accueillir parce qu'il va nous aider à faire rayonner la spiritualité du Carmel, agrandir aussi notre librairie pour qu'elle puisse aussi vous proposer davantage de livres, de choix. Et donc, Monsieur Camiade a une longue expérience. Ça fait 30 ans qu'il travaille dans le métier du livre à travers différentes librairies. Il vient de La Roche-sur-Yon et revient dans le sud, dans sa terre d'origine, même si ce n'est pas Toulouse, mais c'est Agen. Mais bon, Toulouse est plus proche d'Agen que La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc on est très heureux de l'accueillir. Et cette conférence, c'est aussi pour nous l'occasion de l'accueillir et de vous le présenter. Et donc j'ajoute aussi que c'est une joie de faire cette conférence dans cette église du couvent des Carmes, aussi en partenariat avec Radio Présence, si bien que beaucoup d'auditeurs seront en communion avec nous. Et puis aussi, dans cette église, il y a quelques jeunes que j'ai rencontrés il y a 10 ans, à ma gauche, qui sont du groupe Nathanaël, et ce sont les premiers cobayes de à la fois cette conférence et ce petit livre. Et donc, c'est un thème nouveau, mais en fait, personnellement, il m'habite depuis assez longtemps, et finalement, proposer ce bouquin, c'était assez simple, puisque tout était déjà prêt grâce aux jeunes de Nathanaël. Voilà. Donc si vous êtes illuminés par l'enseignement des saints du Carmel, vous pourrez les remercier, parce que c'est un peu quand même grâce à eux. Et effectivement, alors je reviens sur ce que disait Monsieur Camiade, le sujet des anges est un sujet qui est important, parce que déjà, ils font partie de notre foi. Et donc, tout ce qui concerne la foi est précieux. Il n'y a pas un seul article de la foi, finalement, qui mérite d'être méprisé, parce qu'il serait, il serait moins important. Il y a des hiérarchies des vérités de la foi, et effectivement, la plus haute des vérités, c'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que nous adorons parce qu'ils sont Dieu, et ils sont à la source de tout, ils sont à l'origine et au terme de tout, l'alpha et l'oméga, comme le dit l'Apocalypse, le début et la fin. Donc Dieu, évidemment, est au cœur et le centre, l'essentiel de notre foi. Mais Dieu a tout de même voulu créer des êtres spirituels, les anges et les hommes, pour participer à sa vie bienheureuse. Et on insiste à juste titre sur le fait que les hommes ont été créés par Dieu, et c'est assez normal puisque nous sommes des hommes, mais c'est vrai qu'on oublie souvent de parler de cette autre moitié de l'univers créé. Saint Thomas nous dit que c'est même la partie la plus nombreuse et la plus saine de l'Église, voilà, que représentent justement les anges. Donc le premier point que je voudrais souligner en introduction, c'est que si ce n'est pas un thème qui est la première vérité de foi que nous accueillons, ça reste tout de même un thème précieux parce qu'il fait partie de notre credo. Vous voyez, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, disons-nous à la messe quand on récite le credo. Et ça, c'est quelque chose qui tient à cœur, tient au cœur des saints du Carmel, puisque tout ce qui est une vérité de foi sera pour eux source d'union à Dieu. Voilà. Donc accueillons les anges comme un mystère de foi qui nous est révélé et que nous pouvons contempler parce que Dieu a voulu les mettre sur notre chemin. Et ce qui est très frappant, c'est que justement, plus on se rapproche des anges, et si notre dévotion est bien ajustée, eh bien, il se passera quelque chose d'assez semblable à ce que l'on dit de Marie, c'est que, de la même manière qu'en prenant Marie chez soi, eh bien, elle nous tourne vers le Christ, elle favorise notre union à Dieu. Les anges, lorsqu'on se rapproche d'eux, ne captent pas notre attention sur eux, mais ils la fixent sur Dieu. Vous voyez, donc notre dévotion aux anges est toute relative au Christ. Et ça, je dis ça dès le début, parce que justement, M. Camiade parlait de l'ésotérisme, le New Age, et qui va justement vous présenter un monde angélique extrêmement compliqué, et qui va être tellement raffiné qu'il va comme capter toute votre attention, si bien que vous ne regarderez plus le Christ, mais ce monde un petit peu étrange que l'on vous présente comme étant celui des anges, voyez ? Alors que dans la dévotion catholique, hein, la vraie dévotion catholique, notre relation aux anges est toute ordonnée à notre relation à Dieu et au Christ. C'est ce que dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, ils sont les serviteurs de ceux qui doivent hériter du salut, au chapitre 1. Et donc, ils ne sont pas la source du salut, mais justement, ils sont les serviteurs de ceux qui doivent hériter du salut qui nous est communiqué par le Christ. Et donc ça pourrait être un critère de discernement pour voir si notre dévotion aux anges est bien ajustée, est-ce qu'elle me rapproche de Jésus. Voilà. Ça, c'est le premier point d'introduction sur lequel j'insiste. Et le deuxième point va lui ressembler. Et vous allez voir que ce sera le mystère de l'incarnation qui va être au cœur de notre méditation. C'est un peu paradoxal parce que les anges sont de purs esprits. Mais justement, dans ce deuxième point, je voudrais insister sur cet autre fait que normalement, une dévotion aux anges authentique, loin de vous faire vous évader dans un monde irréel, évanescent, éthéré, en réalité, va plutôt vous ancrer sur la terre. Vous voyez, celui qui est proche des anges est normalement quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Ceux qui me connaissent pourraient me dire que je devrais travailler ma dévotion angélique et ils n'auraient pas tort, parce que je suis assez distrait. C'est justement peut-être parce que je ne les prie pas assez. Vous voyez, normalement, et on le voit bien dans l'histoire de l'Église, hein, les saints qui étaient proches des anges étaient souvent des saints avec un sens pratique assez développé, qui avait le sens du réel. Vous voyez, et donc plus vous vous approchez d'eux, et plus finalement vous devenez humain. Oui, et ça va un peu à contresens d'expressions courantes, comme celle par exemple de l'angélisme. Quand on dit que quelqu'un est travaillé par l'angélisme, c'est qu'on a l'impression que cette personne est un peu déconnectée du réel. Et qui fait l'ange fait la bête. Ça, c'est Pascal qui le disait. Et donc on a cette idée selon laquelle, en se rapprochant des anges, nous nous éloignerions de la terre. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Plus nous nous approchons d'eux et plus nous devenons humains, nous devenons simples, nous devenons ces êtres humains que Dieu a voulu que nous devenions. Vous voyez ? Il n'y a pas de concurrence entre nous et eux, nous n'avons pas à devenir de plus en plus anges pour marcher sur la plus haute marche du podium de la sainteté, et les anges n'ont pas à chercher à devenir hommes, parce que le Christ se serait incarné, vous voyez ? Chacun est bien à sa place. Et c'est parce que chaque être accueille la vocation que Dieu lui a donnée, eh bien qu'il permet d'enrichir l'Église selon la place qui lui a été destinée. Vous voyez, donc, je redis un peu ces deux points d'introduction, parce que je pense qu'ils sont importants. Les anges sont des êtres précieux, ils appartiennent au credo, aux vérités de notre foi, et en même temps, ils nous tournent vers Dieu lorsque nous nous rapprochons d'eux. Vous voyez, donc ils sont précieux, mais ils nous orientent vers le Christ. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que lorsque nous nous approchons d'eux, nous devenons plus humains. Voilà. Et on multipliera les exemples hein, dans cette rencontre, hein, mais on en connaît déjà certains, comme par exemple dans la vie du Christ, nous voyons que les anges interviennent justement au moment où son humanité, on pourrait dire, est mise à l'épreuve. Par exemple, au désert, il commence à avoir faim, et c'est là que les anges interviennent. Vous voyez, c'est justement quand Jésus éprouve les limites de son humanité que des anges viennent pour le consoler. Et on se souvient aussi, évidemment, du passage de Gethsémani, où un ange est là pour fortifier le Christ dans son agonie. Vous voyez, donc l'ange ne vient pas dire à Jésus « T'inquiète pas, ton humanité, tu n'as plus qu'à l'oublier, tu vas bientôt mourir et tu ne seras qu'un pur esprit. » Mais au contraire, l'ange vient auprès de Jésus justement pour être le serviteur de son humanité. Vous voyez ? Et c'est ce que les anges, et notre ange gardien en particulier, fait pour nous. C'est pour ça que l'exemple de la place de parking que les anges peuvent nous aider à trouver, eh bien, il n'est pas si bête que ça. Parce qu'évidemment, ils ne font pas que cela, nous trouver une place de parking. Mais justement, les invoquer pour trouver une place de parking, ça dit bien ça aussi. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à intervenir dans nos besoins humains les plus concrets. Alors, on a mis en quatrième de couverture qu'ils sont heureux de nous rendre d'autres services aussi. Et c'est vrai, ils sont là pour servir notre sainteté, pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Mais il ne faudrait pas les prendre pour des êtres si éloignés qu'ils seraient indifférents aux besoins de notre humanité. Voilà. Donc, pour les mères de famille qui sont là, vous pouvez les prier pour vos enfants, et les pères de famille aussi d'ailleurs. Ceux qui ont de grandes responsabilités, bah, pour tous les soucis qui vous inquiètent. Et très volontiers, ils écoutent ces prières bien humaines. Voilà. En fait, nous leur donnons cette joie de nous rendre ces services qu'entre eux, ils ne peuvent pas se donner puisqu'ils sont de purs esprits, vous voyez. Et donc, ils peuvent nous donner un service spécifique qui respecte notre humanité. Ce sont les deux grands points. Ceux qui sont un petit peu fatigués peuvent désormais s'endormir. C'était la chose la plus importante que je voulais vous dire. Carolina, c'est bon. Non, je rigole. Carolina est de Nathanaël et fait partie des cobayes d'il y a 10 ans. Alors, ça, c'était l'introduction. Et les points auxquels j'ai pensé pour ce soir, ce serait trois points, puisque je suis français et que j'ai appris à faire des dissertations en trois points. Alors, ce ne sera pas thèse, antithèse, synthèse, pour ceux qui se souviennent de leur... Ce sera le premier point, quand même, je me dis qu'il faudrait honorer le titre de cette conférence. Donc, on va voir comment les anges nous aident à prier concrètement. Voilà. Et je vais insister sur ce « concrètement ». Ce ne sera pas par de belles formules, mais on va voir que justement, ils ont un impact sur notre corps. Vous voyez, ce sera toujours l'incarnation qui sera au cœur de notre méditation sur les anges. Donc ça, ce sera le premier point. Et donc, ça va être même très pratique, et peut-être qu'à la fin de cette conférence, on pourra prendre une ou deux minutes de silence pour justement accueillir leur présence dans la prière. Le deuxième point, on va voir comment, justement, les anges finalement permettent à notre personnalité d'éclore et d'émerger. Notre contact avec eux fait surgir ce qu'il y a de meilleur en nous, de plus personnel et de plus original. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant chez les saints du Carmel, mais aussi chez les autres saints qui ont une dévotion aux anges, c'est qu'on sent qu'à leur contact, eh bien, ils vibrent avec une touche qui est toute personnelle. Voyez, donc il n'y a pas dans notre dévotion aux anges une sorte de leçon à appliquer bêtement d'une manière universelle, mais peut-être plutôt quelque chose de très personnel, de très intime à découvrir et peut-être à leur demander de nous aider à accueillir. Voilà. Donc les anges qui sont des êtres personnels font émerger notre personnalité dans ce qu'elle a de plus précieux et d'unique et d'original. Voilà, ce sera le deuxième point. Donc, l'effet, on pourrait dire, de notre prière. Et le troisième point, on va voir comment ils sont des stimulateurs. Je ne sais pas si c'est stimulant. C'est quoi le bon terme? C'est stimulant ou stimulateur? Ils nous stimulent. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Dans notre croissance spirituelle, et même, ils nous obligent à comprendre la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Voyez, parce qu'ils sont des purs esprits, eh bien, ils nous aident à comprendre la sainteté humaine à laquelle nous sommes appelés, puisque nous sommes composés d'un corps et d'une âme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand nous les prenons comme modèle, que nous sommes appelés à leur ressembler, certainement pas à quitter notre corps, mais peut-être qu'il y a certaines de leurs propriétés qui peuvent nous être communiquées. Voilà. Donc on va voir comment peut-être il nous oblige à revoir notre conception de la sainteté. Voilà, ce sera le troisième point. Alors je commence par le premier. Comment les anges concrètement nous aident à prier ? Il y aurait une interro à la fin. Alors, la chose la plus importante à retenir pour ce point, c'est une vérité sur laquelle les saints, en particulier les saints du Carmel, docteurs de l'intériorité en quelque sorte, reviennent souvent. C'est cette vérité selon laquelle, dans le jardin intime de notre âme, dans notre centre le plus intérieur, il n'y a qu'un être, on pourrait dire, qui a accès, qui a la permission d'entrer, et c'est Dieu, Dieu Trinité. Vous voyez ? Et donc, il est important de dire ça en premier, parce que cela signifie que dans cette intimité-là, les anges n'ont pas accès. Mon ange gardien, ni même d'ailleurs le diable, heureusement. Et donc, ça signifie qu'il y a un lieu qui est réservé à Dieu, et que Dieu seul peut habiter pour me communiquer ses grâces les plus secrètes, les plus intimes. C'est ce que Jean de la Croix appelle la substance de l'âme. Et nous pouvons y entrer par un acte de foi. Et où Thérèse d'Avila parlera de ce centre le plus intérieur, la septième demeure. Vous savez qu'il y a sept demeures dans le château intérieur de Thérèse d'Avila. Et la septième, c'est justement le lieu où le roi habite et attend que nous le rejoignions pour contracter avec nous un mariage spirituel. En fait, c'est une autre manière de parler de la sainteté ou de l'union à Dieu. Voilà, donc dans ce centre le plus intérieur, Dieu seul a accès. Voilà. Donc ça signifie que ce n'est pas de cette manière-là que les anges pourront venir nous aider. Ils ne pourront pas finalement nous atteindre à partir de notre centre. Vous voyez ? Par exemple, quand vous communiez, vous avez parfois certaines grâces contemplatives, un certain recueillement qui vous est donné et qui vous semble jaillir du plus intérieur de votre cœur. Voyez ? Et donc ça, ce genre de grâce-là vient de Dieu, on pourrait dire directement, par sa grâce. Donc, si les anges n'agissent pas à partir de l'intérieur, puisque c'est le lieu même où l'Esprit-Saint nous communique sa grâce, c'est donc qu'ils vont agir à partir de l'extérieur. Et plus précisément, ils ont une certaine capacité d'agir sur notre corporéité. Et ça, on le voit bien, par exemple, dans les Écritures, quand le prophète Élie au désert vit une sorte de burn-out ou de dépression et qu'il demande à Dieu de reprendre sa vie, eh bien, un ange viendra à ses côtés pour le toucher. Voyez ? Donc ça, c'est beau aussi, hein, parce qu'on voit cet ange attentif aux besoins d'Élie. Et la première manière de se rendre attentif à lui, eh bien, c'est de le toucher. Et puis ensuite, il lui demande de manger. Vous voyez comme quoi les anges ne sont pas indifférents à nos besoins corporels et aussi de boire. Élie mange, boit et puis se rendort quand même. Ça, c'est pour nous le matin qu'on a du mal à se réveiller. On peut dire que Élie, le premier, a eu du mal et s'est rendormi après un premier réveil. Vous voyez, donc les anges sont capables d'atteindre notre corporéité. On a ça aussi, par exemple, avec le prophète Isaïe, qui, lorsqu'il voit un séraphin, eh bien, sera touché par ce séraphin sur ses lèvres, à travers ce charbon embrasé que le séraphin lui apporte et lui fait toucher à ses lèvres. Vous voyez, donc les anges dans les Écritures ont une action corporelle. Ils peuvent atteindre notre corporéité. Voilà. Et donc c'est pour nous très utile de le savoir parce que ça signifie que d'une manière ordinaire, nous dira Jean de la Croix, eh bien les anges nous accompagnent quand nous prions. Et en particulier, peuvent avoir cette action bienfaisante sur notre corps pour l'aider à se recueillir. Vous voyez, on peut les imaginer un peu comme cette nuée qui accompagne le peuple d'Israël au désert et qu'Israël essaye de suivre, une nuée lumineuse. et qui est comme une sorte d'atmosphère dans laquelle nous entrons pour justement nous recueillir et entrer en contemplation. Vous voyez ? Alors là, vous allez peut-être vous dire, oui, bon, merci, moi je ne la ressens pas, cette nuée. Et évidemment, effectivement, la majorité du temps, nous ne les sentons pas. C'est seulement dans l'expérience des saints, quand ils sont parvenus à une certaine intimité avec Dieu, qu'ils sont sensibles à cette présence des anges. Hein. Les ermites, souvent, sont eux aussi sensibles à cette présence-là, parce que ils ont ce retrait du monde qui les aide à accueillir cette présence silencieuse. Mais tout de même, il peut être utile de se souvenir de leur présence à nos côtés quand nous prions, pour leur demander justement d'exercer leur action bienfaisante, même sur notre corporéité, pour nous aider à nous recueillir. Voilà. Mais on pourrait dire que la corporéité, c'est encore un aspect extérieur, et les docteurs, saint Thomas d'Aquin, mais les saints du Carmel nous disent aussi qu'ils ont une action sur notre imagination. Voilà. Donc ils peuvent nous aider à nous représenter le Christ. Ils peuvent avoir un impact sur notre capacité à nous former une image intérieure, ou bien de lui, de l'ange, si nous voulons penser à lui, mais surtout du Christ, si nous sommes invités à entrer en relation avec lui. Donc ils ont cette capacité de nous aider à nous représenter intérieurement les mystères de la foi. Voilà. Et ils peuvent aussi nous suggérer de bonnes idées, de bonnes paroles. Jean de la Croix les présente comme des bergers qui, justement, s'occupent du troupeau de nos pensées intérieures pour qu'elles deviennent comme pour que ces bergers soient aussi des messagers qui nous communiquent les vérités de la foi, qui nous donnent justement ces images, ces paroles, ces lumières de l'intelligence dont nous avons besoin pour nous rapprocher de Dieu. Et donc on peut vraiment les prendre comme des tuteurs qui nous accompagnent à chaque fois que nous prions. C'est d'ailleurs pour cette raison aussi que nous les invoquons pendant la liturgie de la messe. Vous voyez, au Confiteor, je confesse à Dieu et je demande à la Vierge Marie, les anges et les saints de prier pour moi. Durant le Sanctus, nous les invoquons et nous nous unissons à leur prière parce que nous savons que pendant la liturgie de la messe, eh bien, notre prière terrestre rejoint leur prière céleste et que les invoquer, prier avec eux, c'est justement nous aider à nous recueillir. Et d'ailleurs, le Sanctus, justement, nous prépare à entrer dans cette partie la plus centrale de la messe, qui est la prière eucharistique. Et justement, on sent bien que lorsque Dieu va se faire présent, nous avons besoin de nous recueillir et de les invoquer pour leur demander de nous aider à accueillir la présence du Dieu trois fois saint. Voilà. Et donc, cela signifie que quand on récite un chapelet, quand on commence un temps d'oraison, et aussi bien sûr quand on va à la messe, mais ça, les paroles de la messe elles-mêmes nous aident à en prendre conscience, eh bien, il peut être utile d'invoquer notre ange gardien pour justement lui demander son aide. Et ce que j'avais remarqué, alors je ne sais pas si c'est quelque chose d'automatique et il ne faudrait pas les enfermer dans un théorème, hein, mais ce que j'avais remarqué, c'est que justement quand on parle d'eux, eh bien, la prière qui suit, alors on pourrait essayer de le vérifier tout à l'heure, la prière qui suit a quelque chose de plus silencieux, de plus recueilli. Il y a une sorte de qualité de silence qui est simplement créée par l'accueil que nous faisons à leur présence. Et ce que j'ai parlé justement de cet épisode d'Élie au désert, hein, on voit bien qu'un ange vient à ses côtés alors qu'il est dans la détresse. Et cette présence, justement, va lui permettre de marcher pendant 40 jours, d'aller sur la montagne de l'Horeb et de se présenter devant Dieu pour entendre sa voix de fin silence. Vous voyez, donc, quand nous invoquons les anges pour prier, ils viennent, ils agissent, que nous en ayons conscience ou non. D'ailleurs, ils sont bien contents que nous ne pensions pas tout le temps à eux, parce qu'ils aiment être discrets. Et donc, ils agissent dans notre corporéité, dans notre imagination, dans notre intelligence pour l'éclairer Et leur joie, c'est justement de nous rendre attentifs à cette voix de fin silence que Dieu veut nous faire entendre au centre de notre cœur. Vous voyez, donc ils vont tout faire justement pour créer cette atmosphère dans laquelle nous pourrons nous rapprocher de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire pour le premier point. On pourrait broder. J'ajoute quelques éléments un peu rapidement parce que, en fait, ils sont comme la conséquence de ce que je viens de dire, mais c'est quand même quelque chose de beau à méditer. Hein. C'est que Jean de la Croix nous dira que quand nous posons un acte de foi, donc en fait c'est très simple, hein, je crois, et nous y adhérons de tout notre cœur, et nous y adhérons par la charité, donc quand nous posons un acte de foi, eh bien nous sommes en train de vivre dans l'obscurité de la foi, ce que les anges actuellement vivent dans la claire vision du ciel. C'est-à-dire qu'actuellement, comme d'ailleurs Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, mon ange voit la face du Père. Vous voyez ? Donc c'est beau quand même de se dire que j'ai un ami qui veille sur moi et qui voit Dieu face à face, actuellement. Et donc quand je pose un acte de foi, c'est comme si mon regard intérieur, d'une certaine manière, se laisse fortifier ou vient comme rejoindre cette claire vision qui est celle de mon ange gardien. Il y a comme une sorte de parallèle à faire entre l'acte de foi que je pose et qui m'unit à Dieu dans l'obscurité et le regard que mon ange pose sur la face du Père. Et je contemple le Père dans la foi et actuellement et en même temps, et peut-être même soutenu par lui, mon ange gardien contemple la face du Père dans la claire vision. Et donc c'est l'acte de foi, la contemplation, c'est pour moi une manière de rejoindre dans le silence, cette fameuse voix de fin silence qui est communiquée à Élie et qui nous est donnée lorsque nous prions. Elle me permet de rejoindre cette contemplation actuelle de mon ange dans le ciel. Donc en quelque sorte, ce que mon ange voit dans la claire vision, je le vois moi aussi, mais dans l'obscurité de la foi. Cette beauté de Dieu que mon ange voit, eh bien, elle m'est donnée aussi, mais justement dans ce clair-obscur de la foi. J'en viens maintenant au deuxième point. Parce que donc, voilà, nous avons pris cette bonne résolution pour l'année 2025, année de l'espérance, de poursuivre notre pèlerinage terrestre en compagnie de cet ange que Dieu a voulu mettre sur notre route. C'est d'ailleurs ce que Dieu dit à Moïse, hein. J'enverrai un ange devant toi sur ton chemin, écoute sa voix, révère-le. Et donc ce que Dieu a dit à Moïse, il nous le dit à nous aussi. Il a envoyé un ange pour nous accompagner sur ce chemin qui nous conduit au ciel. Et de la même manière que l'ange Raphaël a accompagné Tobie dans son chemin, dans son pèlerinage, eh bien, notre ange gardien nous accompagne nous aussi dans notre pèlerinage terrestre qui nous conduira jusqu'au ciel. Et donc, nous avons pris cette bonne résolution dans cette année jubilaire de vivre à ses côtés, de nous souvenir de lui, de le prier quand nous le pouvons. Il ne faudrait pas d'ailleurs s'en faire une sorte de, comment dire, d'obligation morale, hein, si parfois nous l'oublions, il n'en est pas offusqué. Ils savent que nous sommes des êtres humains et que penser toujours à un pur esprit, ça ne nous est pas évident. Mais tout de même, nous avons pris conscience de sa présence. Et justement, qu'est-ce que cette familiarité avec lui va produire dans notre cœur ? Eh bien, ce sera, je pense, peut-être l'éveil de notre personnalité en ce qu'elle a de plus original. Et pour essayer d'illustrer cette petite loi, eh bien, je vais prendre juste quelques exemples tirés des Saints du Carmel, puisque c'est ceux que je connais le mieux, et qui est assez parlant, parce que on pourrait résumer ce constat qu'on va faire ensemble à travers cette phrase. C'est « Dis-moi comment tu vibres au contact des anges, et je te dirai qui tu es. » Voilà. Donc, on peut demander par exemple à Thérèse d'Avila. Comment vibre-t-elle au contact des anges ? Eh bien, c'est assez étonnant de voir que chez elle, ce sera justement ces fibres les plus affectives qui seront mobilisées. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu de Thérèse, vous savez que, et ceux qui ne le savent pas l'apprendront, mais c'est vraiment la sainte de l'amitié et de la relation. Vous voyez ? Il n'y a pas plus humain, il n'y a pas plus concret et incarné que Thérèse. Elle a plein de conseils de bon sens à nous donner, quand bien même elle avait des extases, mais justement, elle, ça lui donnait un sens du concret assez élevé. Et j'ai peut-être pas assez d'extase d'ailleurs. Ça, c'est pour ceux qui connaissent mes oublis. Et donc, Thérèse, c'est vraiment la sainte du concret, la sainte de l'amitié. Et c'est justement dans cette fibre la plus affective qu'elle va être touchée dans sa relation aux anges. Et il y a, on pourrait dire, deux moments forts qui le disent bien dans sa vie. C'est le premier, c'est celui peut-être qui nous concerne un peu nous aussi. C'est le grand combat de Thérèse, le grand combat spirituel de Thérèse qui l'a occupé pendant une vingtaine d'années et qui était justement ce tiraillement entre le Christ et le monde. Thérèse, qui était religieuse de l'incarnation, était tout de même très attirée par les parloirs mondains, évidemment avec d'excellentes raisons et de bonnes excuses, mais Jésus ne voyait pas les choses sous cet angle, et même une fois se manifeste à Thérèse avec un regard sévère, parce qu'il voit qu'elle se fait du mal à l'âme. Justement, elle qui est religieuse, qui devrait plutôt quand même être occupée par Dieu et par la considération des réalités célestes, eh bien, Thérèse, justement, se divertit et perd son temps dans des parloirs mondains qui la détournent du Christ. Voyez. Et elle n'arrive pas à se défaire de ce mauvais travers. Donc c'est, là aussi, nous aussi, nous avons nos mauvaises habitudes contre lesquelles nous luttons. Et comment Thérèse va-t-elle s'en sortir ? Eh bien, c'est grâce, on pourrait dire, au conseil de bon sens d'un de ses accompagnateurs spirituels, un jésuite, qui lui dit faites une neuvaine à l'Esprit-Saint, parce qu'il s'est rendu compte que par les seules forces humaines de Thérèse, elle n'y arriverait pas. Et donc c'est ce que Thérèse fait, et à la fin de cette neuvaine, elle entend une parole intérieure qui lui dit « Je ne veux plus que tu parles avec des hommes, mais avec des anges. » Et en fait, cette parole que Thérèse entend au fond de l'âme va complètement la libérer. Et instantanément, elle est délivrée de cette mauvaise habitude qui, justement, concernait son affectivité. Son affectivité qui, selon son état de vie, devait être ordonnée au Christ, était tiraillée entre le Christ et les gentils hommes d'Avila. Et désormais, elle va être complètement libérée de cette mauvaise habitude, justement par une parole qui lui parle des anges. « Je veux que tu parles avec des anges. » Comme si c'était la relation de Thérèse avec les anges qui allait ajuster et ordonner son affectivité au Christ, mais bien sûr après au service de l'Église. Et ce n'est pas en raison de cette parole que Thérèse se privera de parler à des hommes, évidemment, mais ce sera des hommes spirituels et ce sera des entretiens qui seront ordonnés au Christ, ce qui d'ailleurs ne l'empêchera pas de s'amuser, etc. Il ne faudrait pas prendre cette parole comme une sorte de condamnation par le Christ des entretiens humains que Thérèse pouvait avoir avec, avec les hommes, mais c'était plutôt une invitation justement à les ordonner à Dieu, à les présenter au Christ. Donc vous voyez, c'est Thérèse dans ses fibres affectives et relationnelles qui est concernée par cette parole du Christ et qui justement lui parle des anges et lui demande de parler aux anges. Là aussi, ça peut être pour nous une petite habitude. Est-ce que je parle moi aussi aux anges ? Est-ce que je parle à mon ange gardien ? Je le remercie de veiller sur moi. Et deuxième aspect de la vie de Thérèse, c'est justement quand elle rencontrera, alors ça c'est quand même pas les grâces les plus habituelles, mais qui ont quelque chose à nous dire tout de même, quand elle rencontrera un chérubin qui avec un dard enflammé viendra la blesser dans son cœur, mais jusqu'au fond de ses entrailles. Voyez ? Et là aussi, les entrailles, c'est vraiment le lieu de sa fécondité, le lieu de sa féminité, le lieu de son affectivité, et c'est ce lieu-là qui est touché par l'ange lorsqu'il la rencontre. Et effectivement, c'est ce lieu-là qui va être déployé par la grâce pour être mis au service de l'Église. Vous voyez, donc Thérèse, qui est affective, eh bien, va être touchée dans sa relation aux anges par le biais de l'affectivité. Jean de la Croix, si maintenant nous prenons l'exemple de Jean de la Croix, qui lui est, et on pourrait dire, un contemplatif, qui est fasciné par la beauté de Dieu, eh bien, ce sera justement sous cet angle-là qu'il nous parlera des anges et nous dira que, justement, les anges sont les pédagogues de notre contemplation. C'est-à-dire que lorsque nous entrons dans cette prière qu'il appelle la contemplation, c'est-à-dire une prière qui jaillit du fond de notre cœur et qui nous communique la paix qui vient de Dieu, eh bien Jean de la Croix nous dit qu'ordinairement, elle nous est donnée et communiquée avec l'aide des anges. Et ça, c'est quelque chose qui va fasciner Jean de la Croix. C'est-à-dire que la manière qu'ont les anges de recevoir la lumière divine est exactement celle que Dieu se propose de nous donner pour que nous accueillions sa lumière à lui dans la foi. Voilà. Donc Jean de la Croix, Thérèse, c'est par le biais de l'affectivité, et Jean de la Croix, ça va être par le biais de la contemplation, et on pourrait dire de la fascination pour la beauté de Dieu. Thérèse, on pourrait dire que c'est la volonté, les passions qui sont saisies. Jean de la Croix, c'est plutôt l'intelligence et le centre de l'âme qui vont être mobilisés. Alors, il y a un autre saint que j'aime bien, qui n'est pas encore assez connu, mais ça ne va pas tarder. Enfin, les éditions du Carmel vont s'en charger. C'est le bienheureux François Palao, qui d'ailleurs est passé... ah ben oui, là, j'en ai parlé aux jeunes de Nathanaël. Il est passé dans le coin de Toulouse parce qu'il a vécu 12 ans à Montauban, et c'est un carme espagnol. Et pour lui, alors vous en saurez un peu plus si vous regardez le chapitre qui lui est consacré, mais pour lui, son grand mystère, ce qui le fascine, ce qui l'éblouit même, c'est la beauté de l'Église. L'Église comme épouse d'une beauté qui lui est communiquée par Dieu et qui resplendit de la beauté de Dieu, beauté manifestée à ses yeux par le visage de la Vierge Marie. Et donc, Palao, c'est vraiment l'Église qui a ravi son cœur, en quelque sorte. Hein. C'est sa bien-aimée dont il se fait le chevalier et qu'il veut servir et à qui il veut dédier sa vie. Et les anges ne sont pas pour rien, justement, dans la découverte du mystère de l'Église chez Palao, puisqu'ils vont se présenter à lui comme ceux qui ont besoin, qui veulent avoir besoin, pour être plus précis, de sa prière pour intervenir pour le secours de l'Église. Et donc, on peut se lamenter des épreuves que l'Église doit traverser, des défections du clergé, de toutes les calamités que l'Église doit encore traverser. Donc, très bien, faisons ce constat. Mais peut-être entendons aussi cette bonne nouvelle que Palao a entendue en premier, c'est-à-dire qu'il y a un remède. Alors, le remède, c'est le Christ, évidemment, mais nous pouvons même, nous aussi, collaborer à l'application de ce remède, justement en priant les anges d'intervenir pour le service de son Église. Et donc, c'est comme si les anges frappent à la porte de notre cœur, et nous disait qu'il ne voulait pas intervenir pour le bien de l'Église sans que nous les prions. Voilà. Et nous pouvons vraiment en être sûrs d'une certitude de foi qu'à chaque fois que nous les prions, alors pour l'Église en général, ou pour mon prochain, pour telle personne que je dois rencontrer, pour telle collectivité, pour toutes les intentions qui nous occupent, d'ailleurs aussi la petite Thérèse dira la même chose et beaucoup de saints le diront, mais Palao, on pourrait dire que c'est vraiment le mystère central qui captive et qui résume en quelque sorte sa vie. Il a envie de nous crier et nous faire entendre cette vérité, c'est que à chaque fois que, c'est que même, il faudrait commencer par là, c'est que les anges attendent et presque nous supplient de les prier pour intervenir pour le bien de l'Église. Voilà. D'où d'ailleurs cette fameuse prière à Saint-Michel que nous étions invités à réciter à la fin de la messe et que le pape François nous encourage à redire aussi assez régulièrement. la prière à notre ange gardien, pour le service de l'Église. Il y a cette fameuse doctrine traditionnelle aussi des anges des nations, des collectivités, et nous pouvons les invoquer, et Palao nous invite à les prier. Voilà. Et peut-être que nous n'avons pas suffisamment conscience, on pourrait dire, de la puissance de ce genre de prière. C'est des formules du Père Mariogène, hein. Nous ne comprenons pas la puissance de la foi, non pas que nous devenons tout puissants par nous-mêmes, mais justement nous participons à la puissance divine. Dieu veut nous faire participer à sa propre puissance et nous faire collaborer à son œuvre, dans laquelle interviennent aussi les anges. Et donc Palao nous dirait « prions-les, parce qu'ils n'attendent que notre prière pour répandre leurs bienfaits sur le corps mystique de l'Église ». Et puis, je termine avec la petite Thérèse, qui, elle, évidemment, est fascinée par la miséricorde divine qui s'abaisse sur sa petitesse. Et peut-être que vous vous souvenez de cette phrase, hein, qui est la loi, on pourrait dire, de l'amour chez Thérèse, c'est que pour que l'amour soit satisfait, il faut qu'il s'abaisse, et qu'il s'abaisse jusqu'à notre néant, et qu'il transforme en feu ce néant. Voilà. Le propre de l'amour est de s'abaisser. Et donc Thérèse, c'est ça qui l'émerveille en fait dans le mystère de Dieu. Et justement, c'est la clé de sa petite voix, présenter mes misères, ma petitesse, mes faiblesses, mes distractions et mes oublis. Ça c'est pour moi, c'est pour me rattraper. et pour attirer la miséricorde divine et pour m'en corriger aussi quand même. Parce que justement, la miséricorde divine cherche surtout ces failles de mon être pour venir s'y engouffrer. Vous voyez, c'est vraiment ça que Thérèse est venue nous enseigner et qui est si libérateur quand nous l'avons compris. Dieu n'est pas impressionné par nos vertus parce qu'il les possède à l'infini en premier. Par contre, il est très attiré par nos misères parce qu'il peut venir les habiter par sa miséricorde. Voilà. Et justement, ce que Thérèse va retenir justement du monde des anges, c'est que ce sont ceux qui tout particulièrement reproduisent le mouvement de l'amour miséricordieux de Dieu qui s'abaisse jusqu'à notre néant. Elle le dit de son ange gardien. Je vais retrouver cette citation. C'est toujours mieux de laisser parler Thérèse. Même j'aurais dû laisser parler tous les saints du Carmel, mais bon, notre temps n'est pas illimité. Mais elle dit à son ange gardien, « Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel, comme une douce et pure flamme près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre. » Donc l'ange gardien descend de la même manière que Jésus est descendu. Donc tu descends pour moi sur la terre et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. D'ailleurs, le thème de la consolation chez les anges, chez Thérèse, est très présent, et en particulier la consolation que les anges veulent nous apporter. C'est elle qui dit que quand Jésus souffrait à Gethsémani, l'ange qui est venu le voir l'a fortifié et l'a consolé aussi en lui montrant toutes les âmes qui s'uniraient à sa prière et à son agonie. Voilà, donc, pour consoler le Christ, l'ange est venu lui montrer tout ce qu'il aimait et qu'il aimerait dans le cours des temps. Et donc, même à l'égard du Christ, l'ange se fait consolateur. Donc, ça, c'est un thème qui est très, très présent dans la petite voix de Thérèse. Être consolé par Dieu et aussi être consolé par les anges. Voilà. Donc, j'en arrête là pour les exemples. Mais vous voyez, c'est assez fort, je trouve, de voir que chaque saint du Carmel, et on pourrait le dire de tous les saints, et finalement de chacun d'entre nous, je pense que chaque personne humaine est appelée dans son contact et dans son rapport avec les anges à laisser peut-être une partie de son originalité émerger et vibrer en quelque sorte. De la même manière que les anges sont chacun des personnes différentes et même très différentes, on peut imaginer qu'il y a les anges farceurs, les anges sérieux, les anges intello, et puis les anges plus amoureux, les chérubins, les séraphins, etc. Donc le monde des anges est un monde, évidemment, nous avons du mal à nous le représenter parce que pour nous, les différences nous sont montrées par des traits sensibles. Donc nous pouvons voir les traits du visage et nous voyons que des personnes humaines sont différentes les unes des autres. On n'a pas cette capacité de voir les anges directement tant que nous sommes sur Terre. Donc on a du mal à se représenter la différence qu'il y a entre chaque personne angélique, mais elle est réelle. Et justement, ce monde qui est peuplé de personnes si différentes vient faire émerger auprès des hommes un monde dans lequel, eh bien, comme le dirait le fameux Carlo Acuti, nous ne sommes pas des photocopies les uns des autres, et chacun est précieux et unique. Et voilà justement ce que l'ange nous aide à accueillir du mystère de notre personne. Et donc, aussi bien dans l'aide, ça c'était le premier point qu'ils nous apportent dans l'oraison, leur aide est très concrète, ils agissent sur notre corporalité et ils nous font regarder Jésus dans son humanité. Et puis, l'effet de cette aide est très concret aussi, puisqu'ils viennent justement nous aider à devenir les hommes et les femmes que nous sommes appelés à être sous le regard de Dieu. Et j'en arrive au troisième point, qui est celui justement de cette stimulation qu'ils apportent à notre conception de la sainteté. Parce qu'il y a comme... ce serait plutôt une émulation, ce serait ça le bon terme. Parce que c'est amusant de voir qu'il y a comme une sorte tout de même de petite compétition entre Thérèse d'Avila, la petite Thérèse et les anges. Alors il y a des moments, ce sont les anges qui gagnent, et d'autres moments, ce sont les hommes. À certains moments, Thérèse dit quand même « Oui, j'aimerais bien quitter cette terre pour voir Dieu face à face. » Vous voyez ? Et parfois aussi, ça peut nous arriver. Peut-être parce que nous avons ressenti quelque chose du ciel, nous disons « Bon, vivement que nous y arrivons. » Ou parce que justement, nous sommes dans l'épreuve et que c'est un peu dur. Mais bon, au moins là-haut, je serai consolé. Et donc, nous pouvons en quelque sorte les envier parce que eux, dès maintenant, sont dans la béatitude. Très bien. Alors ça, c'est la première étape de la compétition. Et là, les anges semblent avoir un peu d'avance sur nous. Mais vient la petite Thérèse qui dit « Mais attention, le Verbe s'est incarné en homme et non pas en ange. » Et donc, nous avons tout de même un avantage sur eux, c'est que nous pouvons ressembler à Dieu dans les modalités même de sa vie humaine. Donc, lorsque nous souffrons, nous pouvons nous unir à Jésus crucifié. Lorsque nous nous réjouissons, nous pouvons nous unir à sa joie humaine sur terre. Lorsque nous sommes enfants, en âge ou d'esprit, nous pouvons nous unir au mystère de son enfance. Donc tout de même, le fait que Dieu se soit incarné nous donne un certain avantage sur eux. Ah, là nous remportons un point. Donc il y a une certaine stimulation. Et là, c'est eux qui se penchent avec jalousie, dit saint Pierre, sur les hommes, parce qu'ils nous envient un petit peu. Mais désormais, c'est la petite Thérèse qui finalement va les envier. Parce que, vous vous souvenez, quand elle dit qu'elle passera son ciel à faire du bien sur la terre, eh bien, c'est le modèle des anges qu'elle contemple. C'est-à-dire qu'elle dit, mais puisque les anges voient la face de Dieu et pourtant ne sont pas empêchés de venir au secours de leur protégé, eh bien, moi, au ciel, je ne vais pas me reposer et je vais continuer à agir en faveur des hommes, vous voyez. Donc là, les anges ont une longueur d'avance sur Thérèse parce que ce sont eux qui lui donne le modèle de ce que deviendra son apostolat post-mortem. Voyez. Et donc, peut-être on peut se dire ça, nous aussi, hein. La valeur de notre vie ne se mesure pas seulement à ce que nous aurons fait sur Terre, mais aussi à ce que nous nous préparons à faire auprès de nos proches lorsque nous serons au ciel, espérons-le. Voyez. Et ça, vous pouvez en avoir certains exemples lorsque des membres de vos familles sont décédés et que vous avez quand même de bonnes raisons de penser qu'ils sont auprès de Dieu, vous remarquez parfois tout de même une certaine fécondité qui suit leur mort. Elle dit quelque chose de leur propre sainteté et peut-être aussi de leur action qui se continue à la manière des anges, même s'ils ne deviennent pas des anges au ciel, mais ils restent humains, mais à la manière des anges dans le ciel. Vous voyez, donc ils nous offrent le modèle de ce que pourra être notre fécondité après notre mort. Voilà. Un point d'avance. Mais tout de même, à la fin des temps, quand même, nous ressusciterons avec un corps glorifié qui sera la parfaite expression de notre âme, et justement où l'originalité de notre personnalité pourra apparaître même dans ce corps glorifié, bien mystérieux d'ailleurs, qu'il est difficile à appréhender. Et cette fois-ci, nous serons configurés au Christ glorieux, ce que les anges ne pourront pas vivre. Nous avons un point d'avance. Bon, c'est évidemment, vous voyez bien qu'il n'y a pas de compétition réelle, et c'est même presque une sorte d'amusement des saints du Carmel. Hein. Mais ça nous dit bien quelque chose tout de même de cette relation, de cette stimulation, de cette émulation qu'il peut y avoir entre nous et les anges. Et finalement, les anges sont très intéressés par notre sainteté et vont tout faire pour nous aider à marcher sur ce chemin dans lequel, par certains aspects, nous serons appelés à leur ressembler. Effectivement, quand nous prions, quand nous contemplons, quand nous nous rapprochons du ciel, eh bien, il y a quelque chose de ce qu'ils vivent déjà qui nous est donné. Mais aussi, nous sommes appelés à nous distinguer d'eux. C'est en les contemplant, eux, que nous comprenons mieux la dignité à laquelle nous sommes appelés comme êtres humains. Ce n'est tout de même pas rien d'être appelé à la résurrection des corps, voilà, à la fin des temps. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus vient nous rappeler lorsqu'il dit, hein, dans sa fameuse controverse avec les Sadducéens, que nous serons comme des anges dans les cieux. Voilà. Il ne nous dit pas, bien sûr, que nous deviendrons des anges, mais il nous dit tout de même que dans notre corps glorifié, eh bien, il y a quelque chose que vivent déjà les anges dans la gloire, qui sera communiqué même dans notre humanité, dans sa matérialité la plus concrète. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et c'est, je pense, un des autres bénéfices que nous pouvons recueillir, justement, de notre dévotion aux anges. Et pour conclure, je dirais bien volontiers que, pour reprendre justement les deux avertissements que je vous disais en introduction, on est dans cette dévotion catholique aux anges, on est vraiment aux antipodes de ce que l'on appelle la gnose. D'ailleurs, les cathares étaient un exemple de ce qu'était la gnose dans notre région, hein. C'est-à-dire cette spiritualité selon laquelle nous serions invités à mépriser la matière pour nous unir à un principe purement spirituel. La matière serait mauvaise et il faudrait nous unir à la transcendance et quitter notre corporéité. En réalité, c'est exactement le contraire que la dévotion aux anges nous favorise. C'est que justement, ils nous aident à devenir humains et à nous rapprocher de Jésus dans son humanité. C'est leur joie, finalement, de nous conduire à la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Et pour cela, très concrètement, ils se font nos amis, nos frères, durant nos temps de prière. Ils viennent comme des petites atmosphères nous aider à nous recueillir, à nous inspirer de bonnes pensées. Ils viennent faire émerger notre personnalité en ce qu'elle a de plus précieux, de plus unique, de plus original. À leur côté, on peut entendre, hein, le Père qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée ». Et puis, et ils nous stimulent sur le chemin de la sainteté, un peu comme ils ont stimulé les saints du Carmel, la petite Thérèse, non pas parce qu'il y aurait une compétition, mais parce que justement il y a une émulation et qu'ils attendent justement de nous voir les rejoindre un jour dans le ciel. Ce sera leur joie, hein. Comme Jésus le dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se convertit. Et on pourrait dire qu'à chaque étape que nous faisons et qui nous rapproche de la sainteté, leur joie continue à grandir. Donc, c'est cette joie que je vous souhaite et qui d'ailleurs, je terminerai bien avec ça, qui me semble aussi être le propre de la dévotion angélique. Effectivement, comme ils ne sont pas Dieu Trinité, le centre ultime de notre foi, ils ont quelque chose d'un petit peu périphérique, mais aussi de léger. Et je crois que quand on parle des anges, il y a une sorte de joie et de légèreté presque enfantine qui nous est donnée et qui nous fait goûter un petit peu de cette joie qui vivent dans le ciel. Alors, vivons avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire.